Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les matins très tôt, à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Disponible entre autres sur franceculture.fr. Cette émission est préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Guillaume Ledu. Et comme tous les lundis, c'est l'actualité de la littérature. Aujourd'hui, je reçois Mustapha Benfodil pour son ouvrage « Alger, journal intense » qui paraît aux éditions Macula. C'est un roman façonnant qui mixe plusieurs genres, des textes en fragments, de la poésie et des graffitis, des photos et des dessins et plusieurs histoires en forme de puzzle où s'expriment toutes les langues de l'Algérie d'aujourd'hui et tous les traumas vécus par ce pays ces 30 dernières années.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Mustapha Benfodil, ravi de vous avoir dans le Réveil culturel ce matin.
Bonjour.
Pour Alger, journal intense, c'est un roman volontairement chaotique, avec une architecture inédite, c'est éclaté, et pourtant il y a une histoire, et pourtant il y a un propos, et pourtant il y a un peu ces 30 dernières années qui vous ont marqué, c'est-à-dire depuis vos 20 ans, en 1988, date très importante d'ailleurs pour les Algériens nés après l'indépendance, puisque c'est les premières émeutes pour plus de démocratie,
c'est ça.
Jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, allez, on va le décrire ce livre. Quand on l'ouvre, il y a d'abord un poème, une photo, et puis ensuite deux citations, Pessoa et Pierre Guyotat. Et puis des papiers, et puis des dessins, et puis plusieurs écritures qui s'entremêlent. De quoi s'agit-il ?
En fait, tout bonnement d'un foutoir. C'est un beau foutoir que découvre une femme qui s'appelle Mounia, qui est dans la vie photographe d'art, qui a un mec qui s'appelle Karim Fatemi. Il se trouve que Karim est astrophysicien, donc dans le civil, entre guillemets. Et puis, il a une passion qui n'est pas tout à fait secrète. Elle a toujours vu écrire. Donc, il écrit de tout. Donc, ça va exactement dans ce qui est restitué à peu près dans le roman. Donc, il y a des aphorismes, il y a de la poésie, il y a un journal, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et puis, il y a aussi des essais, il y a des romans inachevés. Il y a toutes sortes de post-it aussi, donc des petits bouts de papier. Donc, chaque fois qu'elle ouvre un tiroir, elle tombe sur un bout de papier sur lequel elle écrit quelque chose. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réflexion, ça peut être une pépite. Et elle doit dealer avec ça au moment où son mari, donc, il décède brutalement dans un accident de voiture. Alors, pour la petite histoire, il meurt le 17 avril 2014. Je crois que pour les Algériens, c'est une date qui n'est pas anodine.
On en parlera.
Ouais. On en parlera. Et effectivement, si on s'amuse à faire un peu le flashback de son histoire, ça recoupe passablement une histoire qu'on pourrait appeler collective, qui effectivement s'étalerait sur une trentaine d'années depuis les émeutes d'octobre 88.
Parlez-nous de Karim Fatemi, donc votre frère de fiction.
En fait, je souhaiterais affirmer, enfin, ce postulat que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon double littéraire, mais je crois que j'y arriverai très imparfaitement, parce que j'y lui ai prêté, disons, pas mal de ma propre vie, y compris les documents scannés qui ponctuent le récit. Mais il y a quand même une distance avec ce type, c'est-à-dire la preuve, moi je suis à côté de vous et lui elle est un peu dans les limbes. En fait, c'est un type de, disons, qui s'est retiré du monde pour mieux le raconter. C'est quelqu'un à la base qui souffre socialement, c'est un sauvage.
C'est quelqu'un qui cloisonne aussi,
qui a la tête aussi dans les étoiles.
Parce que sa femme va découvrir quelques pans de son histoire qu'elle ne soupçonnait même pas.
C'est exactement ça. En fait, la dramaturgie, elle est exactement autour de ça. C'est-à-dire, en fait, à mesure que sa femme va s'aventurer sur ce territoire secret, ce qu'elle appellerait sa tombe de papier, elle découvre effectivement qu'elle a vécu avec une personne qu'elle n'a pas connue. Et ça, je pense, c'est le cas de pas mal de monde. C'est-à-dire, on n'est pas très sûr de vraiment connaître les gens qu'on aime. Et donc, le socle du roman est construit autour de cette étrangeté. C'est-à-dire, comment, à mesure qu'elle s'aventure sur ces territoires, elle se rend compte, finalement, elle n'a pas vraiment saisi qui est ce Karim. Par exemple, si je prends juste l'histoire d'octobre 88, il se trouve que comme artiste, elle a toujours rêvé de monter une expo à Sahchouhada, la place des martyrs, où il y a eu le 10 octobre 88 une fusillade, il y a eu beaucoup de morts. Elle, elle a rêvé de s'emparer de ce territoire pour monter une expo populaire où chacun ramènerait sa part d'octobre. Et voilà qu'elle découvre au hasard de ses lectures en appuyant le journal de son mari qu'il tenait un journal de ses jours de feu où elle raconte comment octobre s'est produit à Boufalik où il habitait donc dans la plaine de la Métidja près d'Alger et comment il a vécu ça aussi comme étudiant à l'université de Babzouar. Et donc pour elle, c'est un matériau magique, c'est inespéré.
Alors cette construction un peu en puzzle, j'avais dit chaotique parce que je suppose, Mustapha Benfodil, que c'était aussi une manière de raconter l'Algérie, votre Algérie, que d'écrire ce Alger Journal Intense.
Voilà, c'est disons le propos, c'était vraiment de raconter ça, mais vraiment par le bas. C'est-à-dire ce que j'appellerais très modestement le micro-récit, c'est-à-dire donner la parole à l'inaudible. C'est-à-dire on a cette idée en Algérie, et je pense que pas qu'en Algérie, l'écrasement des grands récits, c'est-à-dire on a surtout le récit officiel qui est quand même assez pesant. Et puis il y a les petites voix, et nous on s'intéresse aux petites voix, c'est un peu ça le job, je pense, des écrivains. C'est vraiment de faire parler un peu ce qu'on pourrait appeler les petites gens. Mais bien sûr, ça reste une profession de foi, moi j'ai essayé de le faire, à partir de mes propres bouts de papier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est moi qui ai prêté à ce Karim un peu de sa vie. Et puis,
quand vous dites vos bouts de papier, c'est-à-dire aussi bien les textes, mm-hmm. La poésie, les photos, les dessins de vos filles.
Oui, moi
j'ai
beaucoup travaillé comme ça. C'est-à-dire, ça a toujours été fragmentaire chez moi. Même ma manière de... D'ailleurs, je dis... pas j'écris un roman, j'ai dit je construis. Donc quand vous avez utilisé le mot architecture, est vraiment à propos. Et en citant octobre, justement, il se trouve qu'à l'époque, je tenais un journal. Bon, je n'ai pas commencé au moment où ont éclaté les émeutes d'octobre. Je rappelle à nos amis auditeurs qu'en Algérie, s'est produit un peu le prélude de ce qui est a été appelé par la suite le printemps arabe. En Algérie, il y a eu un soulèvement populaire. Donc,
contre le parti unique.
Voilà, contre le régime, etc. Il y a eu environ 500 morts. Et cette histoire, à l'époque, elle n'a pas été suffisamment, à mon sens, documentée. Y compris dans le cinéma, à part Otton de Al-Khadar Hamina, à part... bon, on a les textes de Sass, on a les textes d'Abd Sharaf, on a les textes d'Anwar Ben Malek, mais ça reste plus... on est dans le témoignage. Mais je veux dire, dans les œuvres de fiction, dans les arts plastiques, dans le théâtre, dans le cinéma, j'ai pas trouvé de traces. Très très peu. Il y a Salim Bashi qui en parle aussi dans Ciel d'Ulysse, mais par bribes. Et donc, je suis parti de cette carence.
Et de vos 20 ans.
Oui.
Surtout parce que
moi j'avais 20 ans effectivement à l'époque. Et pour moi c'était une claque octobre. C'est-à-dire moi je vivais justement dans cette espèce de torpeur comme ça, cette gangue qui étouffait le peuple. Et là un jour d'ailleurs il y a un passage qui commence par ça. Chadli assassin. Chadli c'était le président de l'époque. Et pour moi c'était juste une déflagration incroyable. Et donc c'était une manière aussi de documenter ces moments-là et de raconter par le bas. Donc on est au plus près des individus et des personnes. On n'est pas dans les grands récits, on n'est pas dans le discours, on n'est pas dans un objet rhétorique.
Mais il y a une partie bien sûr documentaire et ça on l'a compris, ne serait-ce que parce que ce journal va aller au-delà d'octobre 88. Il va traverser ce qu'on a communément appelé la décennie noire. Vous racontez grâce à cette architecture littéraire que vous avez eue, Mustapha Benfodil, vous racontez aussi bien les moments d'intense bonheur que va connaître ce couple avec la naissance des enfants et aussi l'histoire tragique de l'Algérie.
C'est ça. En fait, c'est toujours Mounia qui mène le bal parce que c'est elle qui va se livrer à ce qu'elle appelle une autopsie sur le corps du texte. Et donc, au départ, le contact avec cette transmission qui n'en est pas une parce qu'il y a pas, il lui a pas légué ce patrimoine de papier en fait. Il est mort, il y avait un journal, elle commence à lire le journal et là s'engage un travail de deuil assez particulier dans mesure elle va écrire sur le journal de son mari et il s'engage à une espèce de dialogue absurde. Mais après elle va se lâcher, elle va commencer à fouiner dans les autres textes, dans les autres carnets.
Ça c'est voilà, le côté exactement. Vraiment polar
elle se prend effectivement au jeu, se pique au jeu. Et c'est en remontant ce fleuve qu'elle va tantôt s'arrêter sur des épisodes tout à fait intimes, comme la naissance de leur fille Layla. Neyla, voilà, le lapsus en fait dit
voilà,
tout.
C'est
elle qui a commis les dessins qui sont dans le roman. Et puis, il y a d'autres fois où elle va buter sur des choses qui sont de l'ordre de l'histoire collective. Donc, ça va être justement ces moments où elle va découvrir, par exemple, que son mari a été enlevé. Chose qu'elle ne savait pas, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas uniquement son enlèvement à lui qui est en cause, mais l'enlèvement de tout un peuple.
Ouais, c'est comme si c'était une boîte noire. D'ailleurs, vous le dites.
C'est une boîte noire.
Vous le dites, Mustapha Bonfodil, dans Alger, Journal Intense. Alors, ce qui fait votre force, c'est que vous écrivez en français en essayant d'inventer une littérature algérienne. C'est-à-dire que vous étiez un des premiers à utiliser les mots de tous les jours qu'on entend en Algérie et d'essayer de trouver le moyen de les injecter dans vos textes, dans votre poésie. Je me souviens très bien de votre premier roman qui s'appelait Zarta. Zarta, ça ne dit à personne, mais quand on sait que c'est l'histoire de quelqu'un qui a déserté, qui a quitté l'armée.
Racine, c'est déserté.
Donc ça vient de déserter.
Voilà, c'est un arabe purement algérien, donc il est vraiment
c'est
composé.
C'est pas du tout arabe, justement.
C'est un mix entre la racine française désertée et puis cette...
Absolument, cette manière
cette résonance algérienne.
D'ailleurs, c'est pour ça que pour l'édition française de votre dernier ouvrage, d'abord sorti en Algérie chez Barzac.
Voilà, donc, sous le titre Body Writing, Vie et mort de Karim Fatimi.
Là, c'est sous le titre Alger, Journal Intense, que ce livre paraît aux éditions Macula, et à la fin, vous étiez obligé de rajouter un petit glossaire.
C'est ça, ouais. En fait, dans mon rapport au français, je dirais que c'est une langue à laquelle j'ai un rapport amoureux. Et que je trempe allègrement. Donc, de la même manière que mon premier roman publié s'intitulait Zarta, donc une déformation du verbe déserter, le dernier, je l'avais intitulé au début Body Writing, en anglais. Après, chez Macula, on a choisi Alger Journal Intense. Mais en creux, ça dit aussi un rapport à la langue française. C'est-à-dire, c'est cette liberté-là que je revendique fondamentalement.
Et pourtant, dans votre livre, on peut même tomber sur des textes en arabe, notamment la poésie de Mahmoud Derwish.
Mustapha, il y a aussi des petits passages sous le titre « Choses entendues ». Par exemple, il y a un passage où... la narratrice qui raconte ça, elle dit, je suis tombée sur un bout de papier où tu as écrit ta rencontre avec un chauffeur de taxi qui faisait la ligne Babloued Place Odin à Alger, et qui lui dit, vous savez d'où vient la formule normalement? Ça vient de normalement, c'est-à-dire selon la langue des Allemands. Et ça, c'est vrai de chez vrai, c'est-à-dire c'est un chauffeur de taxi que j'avais pris à Babloued, à l'époque j'habitais à Babloued, qui me dit, tu sais d'où ça vient normalement? Ça veut dire c'est selon la norme des Allemands. Et moi, j'ai trouvé ça tellement génial, et je me suis précipité vers mon calepin pour me le noter. Et ça fait partie de ma démarche, c'est-à-dire de cueillir comme ça la langue populaire.
Voilà.
Et qui est pour moi une forme de génie incroyable.
Malaxer la langue française, vous le faites pas juste pour le geste, mais c'est aussi pour essayer de retrouver tout ce qui se dit autour de vous en Algérie, que ce soit en arabe, en argot, en berbère.
Oui, même dans mes reportages, si je suis au Mali, je fais pareil, si je suis en Égypte, je suis pareil. Je cueille de la langue que qui m'entoure. Moi, je trouve que c'est une manière aussi de rendre la langue vivante. C'est-à-dire, c'est...
D'algérianiser le français, vous
D'algérianiser, oui, et puis de casser la langue système. C'est-à-dire, pour moi, c'est faire une place dans la langue système, parce que c'est quand même quelque chose d'étouffant, de lourd à porter, surtout quand on connaît la charge coloniale
justement.
Il y en a qui disent, par exemple, ça participe d'une forme de décolonisation. Moi, je ne sais pas si ça tient de ça ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une manière de m'approprier cette langue, de casser la langue système et de la rendre vivante. Voilà.
Alors justement, je voulais vous faire écouter une interview donnée en 1966, c'est-à-dire avant même que vous naissiez, Mustapha Bonfodil, par Kateb Yassine, qui parle d'une part de la relation qu'il a avec les éditeurs. Peut-on être écrivain algérien édité à Paris, et puis surtout, peut-on être écrivain algérien et continuer, après l'indépendance du pays, à écrire en français?
Les jeux sont inégaux, là. Si vous pensez à une chose, les écrivains algériens, ceux qui sont lus à l'heure actuelle, sont édités en France, par des éditeurs français. Ce sont en général des éditeurs courageux. Le mien l'a été, par exemple. Mais cela n'empêche que c'est un éditeur français et que je suis un écrivain algérien. Dans la vision qu'il se fait de moi, il attend une œuvre qui n'est peut-être pas celle que je dois écrire moi, ou celle que j'écrirais en tout cas si j'étais fixé en Algérie avec un éditeur algérien et des lecteurs algériens. Il y a une équivoque là qu'il faut trancher. Je ne dis pas que cela ne nous a pas servi, au contraire, puisque c'est grâce à ces éditeurs français que nous avons été publiés. Et finalement que nous avons été même amenés à la conscience de notre propre peuple. Mais maintenant, le moment est venu de faire cesser cette équivoque, parce que cela masque un vide ici. En quelque sorte, c'est se rendre complice d'un vide tragique de la culture qui existe ici en Algérie.
Vous pensez qu'il conviendra toujours pour les écrivains algériens de continuer à utiliser la langue française?
Non, je pense qu'il viendra un jour où les écrivains algériens utilisant l'arabe plus qu'ils ne l'utilisent actuellement. Je pense qu'il viendra un jour où les dialectes berbères seront écrits et que les Berbères pourront s'exprimer dans leur langue. Je pense aussi qu'avec le temps, les grandes langues universelles seront toujours mieux connues et qu'il y aura de plus en plus dans le monde entier des écrivains capables d'écrire ou en tout cas de passer d'une langue à une autre.
Voilà, c'était en 1966 qu'a Tabiasi une réaction. Mustapha Belfodil, les choses n'ont pas tant changé que ça.
On se rend compte que le débat...
est toujours d'actualité.
Oui, avec la même âpreté, à ceci près que quand même je note qu'il y a énormément de choses qui ont évolué depuis. Il y a quand même un champ de langue arabe qui est extrêmement fort. Il y a une production extrêmement riche, y compris esthétiquement. Il y a des formes nouvelles qui sont, moi en tout cas, qui me donnent des claques. Tous les jours, si je prends par exemple une Amal Bouchouarab, si je prends Salah Badi, si je prends Lamy Saïdi, il y a vraiment beaucoup
autant
de qualité.
D'auteurs qu'on
beaucoup
connaît
de qualité.
Pas d'ailleurs, ouais.
Voilà. Il y a même un courant d'écriture en langue amazigh avec des éditeurs, avec des prix littéraires. Par exemple, je pense au travail de Brahim Tazarat.
Il y a une maison d'édition qui s'appelle Thierry, qui s'appelle d'écriture. Continue à écrire en français, Mustapha ouais. Belfodil, quand Tabiasine disait que le passage obligé, c'était quand même la reconnaissance du milieu parisien des éditeurs.
Non, je pense que ça a changé depuis. Quand on voit le travail, par exemple, qu'Abba Barzakh, c'est phénoménal. C'est-à-dire, il y a plein d'éditeurs, plein d'auteurs qui étaient publiés chez Barzakh avant de venir à Paris. Je pense par exemple à Kawtar Hademi, qui est pour moi très très talentueuse. Bien sûr, il y a le phénomène meilleur sort contre enquête, notre ami Kamal Daoud. Mm-hmm. Mais pas que, hein. Il y a en tout cas une pléthore de maisons comme ça qui arrivent.
Enfin, ce sont des exemples qui vont plutôt dans le sens de ce que disait Katabiasi. Il faut passer par un éditeur
français.
Non,
mais après pour la reconnaissance,
pour se faire, connaître dans le monde, ouais.
Mais ça dépend. Moi, des trajectoires de chacun. Moi, personnellement, je ne suis pas obsédé par la reconnaissance de germanopratine. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel je me lève en me disant il faut absolument que je sois...
Non. Mais c'est ce
bien sûr,
je suis
heureux de rencontrer
plus...
des personnes et des lecteurs. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'aime.
C'est ça qui vous donne cette liberté, effectivement, d'écrire le français comme on le parle, comme on l'entend en Algérie.
En fait, juste pour remettre les choses dans leur place, dans mon écriture, on trouve ce qu'on pourrait appeler une langue triviale. Par exemple, c'est quelque chose parfois qu'on me reproche. On me dit, ouais, t'es vulgaire, il y a beaucoup de gros mots, des dodins dans tes textes. Il y a des mots savants, il y a des choses. Par exemple, il y a un manifeste qui s'appelle Manifeste pour un Dieu humain, qui est un peu spirituel. Après, on trouve une langue populaire. Mais, par exemple, mon roman Archéologie du cœur amoureux, j'avais même, moi-même, disons, choisi une étiquette. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant choisir une étiquette. Et j'ai choisi pop littérature, qui est deleuzienne à la base. Mais, je dirais que oui, c'est une manière de m'approprier le français, c'est une manière de l'humaniser, c'est une manière de l'algérianiser. Et c'est une forme de liberté par rapport à cette langue, de dire, non, ce français-là, ça m'appartient, c'est mon français. À moi.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Je me présente, je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça mais je viens de Californie. Oui mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, cartable jetée, je monte sur ma porte pour ce qu'était tout l'été. Quand ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac chérie car demain on part au degré. Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air. Au futur, au passé, à Paris, à Alger. À ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha, c'est moi, alors qui fais-moi. Alors qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi. 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 Qui fais-moi, qui fais-moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Ça fait marre. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Qui fais-moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Ça fait marre. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Qui fais-moi.
Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup, koum koum, Kabylie parmi. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chami. Entre les deux, un holly, Paris, Alger, Tizi. C'était Curial ou Tizi, 300 au beurre ou chami. Comme un pauvre, je vis ma vie, Tahel Kabylie parmi.
Je serai comme toi, je ferai partie.
Un autre Mustapha qui malaxe le français, celui du groupe Bagarre Californie. C'était pour vous, Mustapha Belfodil.
Merci, j'ai beaucoup apprécié.
Comme quoi, des deux côtés de la Méditerranée, on peut réinventer sans cesse la langue. Alger, journal intense, paraît aux éditions Macula. Et Mustapha Belfodil, dans cet ouvrage très intéressant, à travers une fiction, vous racontez vos 20 ans à Alger, quand éclatent les émeutes d'octobre 88 contre le régime du Parti unique, et les années d'après, celles des espoirs douchés par la violence de la guerre civile qui a duré une décennie. Mais les combats continuent. Vous n'êtes pas seulement écrivain, Mustapha Belfodil, vous êtes aussi, je dirais même, vous êtes d'abord journaliste, grand reporter au quotidien francophone algérien Al Watan. Du coup, on aimerait avoir votre analyse de ce qui se passe en ce moment en Algérie, vu que les élections présidentielles en Tunisie, la situation à Hong Kong ont quelque peu éclipsé les marches pacifiques des vendredis en Algérie, hein, des marches depuis le 22 février, ça n'arrête pas. Alors, les grandes figures, bien sûr, des 20 ans de règne du président Bouteflika ont été arrêtées, emprisonnées ou exclues du champ politique. Aux dernières nouvelles, l'armée a réussi à imposer une date pour des élections présidentielles, prévues donc le 12 décembre. Élections rejetées, semble-t-il, par une partie importante des manifestants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Algérie? Qu'est-ce qui s'y joue? Quelle est votre analyse de la situation, Mustapha Belfodil?
D'abord, une indignation. Vraiment, j'aimerais exprimer une pensée pour Karim Tabou, qui a été arrêté mercredi dernier en septembre. C'est l'une des principales figures
De
l'opposition en Algérie.
Dans le premier secrétaire du FLN. Démocratique, bien sûr.
Oui. Et il y a, juste avant de venir, il y avait de 22 personnes qui ont été mises sous mandat de dépôt. Donc, ils sont incarcérés. Elles ont été arrêtées vendredi dernier. Donc, c'était au 30e round du Hirak. Et ça, ça n'augure rien de bon. Oui, c'est le moment de contestation. Moi, j'aime bien le mot Silmia aussi, ouais. Qui veut dire pacifique. Et justement, c'est sur ce mot que tout va se jouer. C'est-à-dire, est-ce que les Algériens vont continuer à supporter les provocations en série du régime? Parce que l'histoire était belle jusqu'au 2. Il y a eu la chute de Boutef, son clan a été décapité. Après, c'est une autre histoire qui a commencé. C'était donc le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, patron de l'armée, qui a pris le pouvoir. Il s'est approprié le mouvement, il a réglé ses comptes. Et là, il veut imposer une marche forcée vers une présidentielle truquée à la base, c'est-à-dire c'est encore une présidentielle bidon. Les Algériens, ils ont réussi, parce qu'il faut bien le souligner, ils ont réussi à faire capoter deux présidentielles, le 18 avril et celle du 4 juillet. Et là, visiblement, le régime donc s'énerve et il veut imposer donc une date. Et là, ça vient d'être fixé, c'est le 12 décembre. Alors, à mon sens, ça va pas être facile, encore une fois. C'est-à-dire, même si, avec la répression, lui, il compte intimider les manifestants pour voter, pour imposer un candidat qui, visiblement, ils ont dans leur tête, parce que...
Vous en êtes sûr? Qu'est-ce qui vous dit que ces élections vont être truquées?
En fait, c'est parce que tout le préalable, d'abord, ce qu'on appelle... parce qu'il y a eu une phase de dialogue où les gens parlaient de préalable. Le préalable, c'était quoi? C'était d'abord de libérer les détenus d'opinion. Ils ont dépassé actuellement, ils sont à peu près à 80. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient une soixantaine, donc là, ils sont à peu près à 80. Il y a les médias lourds qui sont verrouillés, totalement verrouillés. Ça ne dirait pas une image sur le mouvement populaire. Il y a les accès vers la capitale, oui, qui, par exemple, les manifs, il y a des dispositifs sécuritaires atroces qui étouffent les manifestants. Il y a le gouvernement actuel, donc c'est un gouvernement hérité de l'ère Bouteflika, donc qui est dirigé par un chef de gouvernement qui était ministre de l'Intérieur de Bouteflika. Il y a les députés qui ont voté les deux amendements sur la loi électorale. Il y a aussi un projet de loi qui porte création de l'autorité indépendante des élections. Donc ces députés-là et ces sénateurs-là, ce sont les députés de l'ère Bouteflika. Donc c'est une aberration sans nom.
Député.
Non, je suis pas du tout dépité. Je suis juste réaliste. J'ai les pieds sur terre. Je pense que c'est important pour avancer, c'est d'avoir une bonne analyse de la situation, même si peut-être les choses, on aurait espéré qu'elles aillent un peu plus vite. Ça va prendre un peu plus de temps.
Mais le combat.
Mais
continue.
Le temps joue pour nous. Enfin, je joue pour. Pas uniquement pour moi, parce que moi je fais partie intégrante de ce mouvement, il joue pour le Hirak, oui.
Merci Mustapha Benfoudil d'être venu d'abord pour parler de ce roman que je vous recommande vivement, Alger, journal intense aux éditions Macula, et aussi pour nous avoir un peu éclairé de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Merci beaucoup.
Merci à vous.